cas. Je les prends de vitesse, j'allume mon plein.
Le monde aujourd'hui, numéro Afrique, au micro Idrissa Seluya, bonjour. Au Niger, le gouvernement a annoncé hier que 15 civils ont été tués et 2 blessés ce lundi lors d'une attaque contre un village du département de Bani Bangou, ciblant des populations travaillant dans un champ. Fin juillet, 33 personnes avaient été tuées par des djihadistes présumés dans la même zone près du Mali. Le ministère de l'Intérieur a assuré que des dispositions sécuritaires et sanitaires étaient renforcées dans la zone et qu'une enquête avait été ouverte pour retrouver les auteurs de ces tueries. Au Mali, en exécution d'un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne, a appris l'AFP de sources judiciaires, arrestation de Mohamed Seyss Soukou, dit Ben Souk, un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et condamné par contumace dans son pays. Les partisans de Ben Souk avaient auparavant annoncé qu'il avait été enlevé en pleine rue à Bamako par 4 hommes encagoulés et habillés en tenue civile. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'est inquiété de la récente promotion par le président Félix Tshisekedi de l'ancien chef rebelle Tommy Tambwe, nommé coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le docteur Mukwege a de nouveau appelé au respect de l'état de droit, déplorant, je cite, que lors de précédentes opérations sous-financées et bâclées, le désarmement de miliciens, des criminels aient été gratifiés au lieu d'être traduits en justice. Fin de citation. Raymond Malonga, un journaliste congolais critique du régime du président Denis Sassou Nguesso, a été libéré hier après avoir purgé une peine de 6 mois de prison ferme, selon l'AFP. Il avait été reconnu coupable d'avoir diffamé Georgette Okemba, épouse de l'amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial du président Sassou Nguesso, qui l'accusait d'avoir détourné 1 milliard de francs CFA du trésor public. Au moins 69 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, des feux par dizaines avivés par la chaleur extrême et contre lesquels pompiers, militaires et volontaires tentaient désespérément de lutter mercredi. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir d'aujourd'hui. À Madagascar, le président Ange Rajoel a annoncé hier soir la suspension de tous les ministres du gouvernement. Cette suspension intervient dans un contexte d'inflation préoccupante, mais aussi d'une affaire présumée de coup d'État déjouée dans laquelle une vingtaine de personnes, dont 2 Français et plusieurs hauts responsables de l'armée malgache, ont été arrêtés. Les Zambiens choisissent ce jeudi entre le président sortant Edgar Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema, à l'issue d'une campagne tendue centrée sur l'économie du premier pays africain à avoir fait défaut sur sa dette. Coronavirus, les femmes enceintes peuvent sans danger recevoir un vaccin contre le COVID-19, ont annoncé ce mercredi les autorités sanitaires américaines confrontées à un niveau préoccupant d'hospitalisation de futures mères. Tous les enseignants de Californie devront être vaccinés contre le COVID-19 ou se soumettre à des dépistages hebdomadaires, a annoncé hier le gouverneur de cet État, où les infections sont en forte hausse. De son côté, la bourse de New York va exiger à partir du 13 septembre que les courtiers soient vaccinés contre le COVID-19 pour accéder à sa salle des marchés. Les traders et autres membres du personnel foulant le parquet boursier devront être totalement vaccinés d'ici le 13 septembre, sauf contre ordre médical ou exemption religieuse. Restez à l'écoute, dans quelques instants, le procès de djihadistes présumés au Burkina, le Soudan, la CPI et Omar el-Béchir, la progression des talibans en Afghanistan et le ministre israélien des Affaires étrangères au Maroc. La suite de nos informations, rapprochement entre le Maroc et Israël. Leur ministre des Affaires étrangères ont signé hier des accords portant sur la coopération politique, l'aviation et la culture. C'est à l'occasion de la première visite au Maroc d'un haut responsable israélien, 7 mois après la normalisation des relations entre les deux pays. Le point avec Eli Issango.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a salué la restauration de la paix et l'amitié impulsée par le rétablissement des relations entre Israël et le Maroc. Le Royaume a été le 4e pays arabe, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis de Donald Trump. C'est là, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur les territoires disputés du Sahara occidental. Deux accords et un mémorandum des coopérations portant entre autres sur la création des mécanismes et des consultations politiques ont été signés durant la première journée de cette visite. Quant à la situation au Moyen-Orient et notamment le conflit israélo-palestinien, le ministre marocain a souligné la nécessité de reprendre les négociations pour parvenir à une situation sur la base de deux États. Son homologue israélien a préféré souligner l'importance de la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes, prouvant selon lui que quelque chose est en train de changer dans la région. Pourtant, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait assuré au président palestinien Mahmoud Abbas la poursuite de l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste.
Le Kenya menace de sanctions les fonctionnaires non vaccinés. Ils ont jusqu'à fin août pour se faire vacciner contre le Covid-19 ou risquer des sanctions disciplinaires. Le point avec Rosine Munezero.
Le Kenya, où le Parlement doit étudier ce jeudi l'interdiction pour les non-vaccinés d'accéder à certains lieux publics et privés, fait actuellement face à une vague de contamination au coronavirus. La campagne de vaccination patine avec moins de 3% des 47 millions d'habitants vaccinés. Certains fonctionnaires ont délibérément évité d'être vaccinés, écrit dans un mémo destiné au ministère Joseph Kinyua. Le directeur des services publics affirmant que la disponibilité des vaccins s'est pourtant grandement améliorée. Monsieur Kinyua ajoute que la vaccination est particulièrement basse dans les services de sécurité et dans l'éducation, dont les agents sont pourtant considérés comme des travailleurs essentiels. Ceux qui n'auront pas reçu leur première dose de vaccin d'ici le 23 août seront traités comme des dossiers disciplinaires et des actions appropriées seront prises contre eux, écrit Monsieur Kinyua, sans donner plus de précisions. Le Kenya, où un couvre-feu est en vigueur depuis l'année dernière, a enregistré plus de 200 000 infections au Covid-19 pour 4 211 décès. Le pays vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupée par la décision des États-Unis d'expulser par avion vers le Mexique des demandeurs d'asile et des migrants. Le HCR accuse les États-Unis d'utiliser l'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 pour procéder à ces transferts. Abdulrahman Dia.
Selon le HCR, les personnes expulsées risquent de perdre leur protection ou être forcées de faire face aux mêmes dangers qu'elles fuyaient dans leur pays d'origine en Amérique centrale. Ces expulsions de non-Mexicains vers le Mexique constituent une nouvelle dimension troublante dans l'application de l'ordonnance de santé publique liée au Covid, a déclaré dans un rapport Matthew Reynolds, le représentant du HCR aux États-Unis et dans la Caraïbe. Il demande la levée de cette mesure connue sous le nom de titre 42. Elle a été mise en place sous la présidence de Donald Trump. Elle permet d'expulser immédiatement des migrants sans papier, y compris les demandeurs d'asile. Fin juillet, les autorités américaines ont commencé à expulser certaines familles de migrants sur des vols vers l'Amérique centrale, dans le cadre d'un système accéléré visant à renvoyer les personnes arrivées sur le territoire américain via le Mexique. Selon la chaîne américaine NBC, près de 190 000 candidats à l'immigration ont été arrêtés à la frontière sud.
La Minute Éco, Rosie Mounizero.
Les dirigeants des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, vont se retrouver le 18 août prochain à Yaoundé pour un sommet extraordinaire sur convocation du chef de l'État camerounais, Paul Biya, son président en exercice. Au-delà des autres sujets d'intérêt commun qui feront l'objet d'un examen minutieux, la rencontre sera essentiellement consacrée au rapport sur l'évolution de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte avec la pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement, a indiqué le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo. Au Cameroun, le comité technique national de la balance des paiements affirme que le pays n'a capté que 341,3 milliards de dollars de francs CFA d'investissement direct étranger au cours de l'année 2020. Ces investissements sont en baisse de 35% en comparaison avec l'année 2019, au cours de laquelle ils avaient atteint 527 milliards de francs CFA. Le comité technique justifie cette baisse par l'index de la pandémie du coronavirus qui a réduit la circulation des investissements directs étrangers. Le conseil d'administration du FMI approuve la signature d'un programme de 3 ans avec la RDC, lequel prévoit des réformes et des conditionnalités pour permettre le décaissement d'1,5 milliard de dollars. L'accord vise à aider le pays à soutenir la reprise après la pandémie, à préserver la stabilité macroéconomique et à relancer la dynamique des réformes pour stimuler une croissance durable et inclusive.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Chelsea, de l'international sénégalais Edouard Mendy et du marocain Hakim Ziyech, a remporté hier la Supercoupe d'Europe en battant Villarreal au tir au but, 6 tirs réussis contre 5. Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Hakim Ziyech, buteur, a dû céder sa place sur une blessure à une épaule quelques minutes plus tard. L'attaquant des Blues a ouvert le score à la 27e minute, mais il est longuement resté au sol juste avant la mi-temps. Après un contact, il est ensuite sorti du terrain avec le bras droit en écharpe dans son maillot. Objectif Ligue des Champions, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, par la voix de son président, ont clamé leur envie commune de gagner la Coupe aux grandes oreilles lors de la présentation de la superstar hier à Paris. En provenance du FC Barcelone, Messi s'est engagé avec le PSG pour 2 saisons, avec une année supplémentaire en option. Les fans du PSG profitent déjà bien de l'arrivée de la Pulga. Bagassi Koura.
Accueil vraiment chaleureux pour Lionel Messi lorsqu'il fait son apparition aux abords du Parc des Princes, le stade du PSG, accompagné du patron du club, Nasser Al-Khelaifi. Une foule en délire qui n'en rêvait pas mieux. Et pour que son arrivée à Paris devienne une réalité, Messi l'a avoué. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Neymar, et deux de ses coéquipiers en sélection ont beaucoup pesé sur son choix.
Évidemment, l'une des motivations, ça a été le vestiaire. Ney, Di Maria, Paredes, tout le vestiaire. Même si je connais beaucoup de monde, j'ai eu des contacts avec certains quelques fois et ça a beaucoup pesé dans mon choix de le joindre ce club.
Les dirigeants du PSG, eux, ont une double raison d'engager l'attaquant de 34 ans. Messi redonne une nouvelle dimension à leur projet, à la fois sportive et économique. Du côté du terrain, la présence de la Pulga rapproche Paris de son rêve de gagner la Ligue des Champions. Pour cela, son riche propriétaire qatarien et les fans du PSG espèrent vraiment que Lionel sera le Messi, lui qui l'a emporté 4 fois.
Je viens avec beaucoup d'enthousiasme, avec de l'envie. Et mon objectif et mon rêve est de soulever une nouvelle fois la Ligue des Champions et c'est ce qu'on va essayer de faire.
En attendant cette Ligue des Champions, la Messi Mania ne faiblit pas à Paris. Des supporters sont venus dès l'aube faire la queue devant les boutiques du club pour être certains de pouvoir acheter un maillot floqué de son nom et du numéro 30.
C'est la première fois que je viens aussitôt acheter un maillot d'un joueur. Et on parle quand même de Messi, donc du coup, ça vaut le coup quand même.
Bah pour le prochain match, je vais mettre le maillot de Messi, obligé.
La dimension économique de l'arrivée de la Pulga est déjà en marche. Sur la boutique en ligne, les modèles hommes étaient en rupture de stock ce mercredi.
Merci, Bagassi.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le tout premier procès de terroristes présumés s'est ouvert ce lundi. Et dès le lendemain, les premières sentences ont été prononcées contre deux prévenus burkinabés qui ont écopé de 20 ans d'emprisonnement. Et hier, un Malien, membre de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, a été condamné à 21 ans de prison ferme, assorti d'une période de sûreté de 14 ans et une amende de 2 millions. Sur ces jugements, pour fait d'actes terroristes, la population est partagée sur leur opportunité. Si certains admettent qu'un terroriste a les mêmes droits que toute autre personne, d'autres pensent qu'ils n'ont plus le droit de vivre. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Ce procès, premier du genre, divise l'opinion publique burkinabé. 10 prévenus doivent passer à la barre pour répondre des accusations portées sur eux. À Ouagadougou, certains reconnaissent le droit de tout accusé d'avoir un procès équitable. D'autres, par contre, regrettent la tenue de ce jugement. C'est le cas de D.O. qui a requis l'anonymat.
Ces terroristes-là, vraiment, à les écouter, n'ont pas besoin de changer, disent pas qu'ils se sont trompés, et pour eux c'est leur voix, c'est la meilleure voix, et ils sont sur un motif, défendre la charia. Bon, c'est vraiment un procès qui me laisse vraiment, sinon je suis sur ma soie parce que je pense que ce procès ramène les terroristes à la raison.
Pour des infractions d'actes terroristes, la loi burkinabé prévoit des peines d'emprisonnement de 11 à 21 ans et des amendes de 500 à 2 millions de francs CFA. IC, qui a aussi requis l'anonymat, estime que les sentences jusque-là appliquées ne sont pas dissuasives.
Moi, je crois qu'ils auraient dû faire des sentences plus sévères que ça et publier pour que toute personne qui voit ces sentences-là, très très sévères-là, réfléchisse par 10 000 fois avant d'entrer dans ce genre de trucs-là.
Mais la loi étant ce qu'elle est et ne pouvant pas satisfaire tout le monde, il faut faire avec et surtout qu'elle serve à corriger les individus.
Avec le juger quelqu'un, ce n'est pas le sanctionner seulement, mais c'est surtout pédagogique.
Moulay Sorgo, technicien à Ouagadougou.
Je crois que ça fait aussi une autre victoire du fait que c'est le monde moderne face à un monde barbare. Nous aspirons aussi à la démocratie et je crois que c'est l'image de la démocratie qu'on donne comme ça et qui est que la liberté véritablement doit être défendue partout.
Au nom de cette liberté, tout prévenu, même terroriste, a droit de jouir de cette législation. C'est en tout cas ce que pense AO.
Moi, je suis un partisan des droits de l'homme. Pour moi, juger un terroriste ne doit pas souffrir de débat, parce que c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des droits et des devoirs. Les lois sont là pour être appliquées. Et la justice est là pour rendre justice à qui de droit.
Sur la dizaine de prévenus, 5 sont déjà passés à la barre et 3 ont écopé d'une peine ferme de 20 à 21 ans assortie d'une période de sûreté de 15 ans. Ils ont été aussi condamnés à payer des amendes allant de 750 000 à 2 millions de francs CFA. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
5 morts, des centaines de sinistrés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan des inondations causées par de fortes précipitations enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi à Niamey, la capitale nigérienne. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les précipitations sont allées par endroits jusqu'à 140
mm.
Au quartier Kombo, dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, ce chef de famille, en plus des dégâts matériels, a perdu 4 de ses enfants. Dans le village périphérique de Gabougoura, ce sont plutôt des dégâts matériels importants qui ont été enregistrés.
Nous avons tout vu en termes de malheur. On a tout perdu dans l'inondation. On n'a nulle part où dormir. Presque tout le village a passé la nuit dans les mosquées. Il y a même eu des décès.
Bon,
Nous avons tout perdu dans l'inondation, nourriture. Même mes deux filles qui sont mariées, elles ont tout perdu aussi. On n'a nulle part où aller.
Sur une bonne partie de la nuit, plusieurs ruelles de la capitale étaient impraticables. Par endroits, certaines chaussées ont carrément cédé. C'est la deuxième forte précipitation que la capitale nigérienne a enregistrée depuis le début de cette saison hivernale. Presque toutes les années, en cette période, l'on assiste à la même situation avec des bilans macabres. Colonel Major Bakou Boubacar, directeur national de la protection civile.
La situation globale nationale fait état de 52 pertes en 10 humains. Ces inondations concernent 29 départements et villes, hein, et 62 communes, donc 218 villages ou quartiers. Il y a en tout un bilan provisoire de 4137 maisons effondrées.
Un bilan nettement supérieur à celui global de l'année 2020. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Soudan va remettre à la Cour pénale internationale trois anciens dirigeants soudanais, parmi lesquels l'ancien président Omar el-Béchir. Ils sont notamment poursuivis pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour qui a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés selon les Nations Unies. Ce conflit a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de M. Béchir à des rebelles issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint Laetitia Bader, directrice en charge de la Corne de l'Afrique à l'ONG Human Rights Watch.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement de transition au Soudan fait une promesse par rapport à la décision de remettre Omar al-Béchir et deux autres individus qui doivent être remis à la CPI. Donc, il est encore loin du moment où on peut fêter cette décision. C'est bien sûr quelque chose que l'on a appelé le gouvernement de transition de faire depuis deux ans. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a aussi vu d'autres promesses et développements récents positifs, notamment le fait que le gouvernement a décidé d'adopter le statut de Rome. Donc, toutes des mesures positives. Mais ce que l'on a vu à maintes reprises, c'est qu'on voit beaucoup de promesses, mais peu d'actions vraiment concrètes en termes de justice.
Alors, Omar el-Béchir est actuellement détenu à la prison de Kober, à Khartoum. Il a déjà été reconnu coupable de corruption par la justice soudanaise. Ne pensez-vous pas qu'il puisse être jugé pour ses crimes de sang au Soudan? Pourquoi est-ce nécessaire de le remettre à la CPI?
On a à maintes reprises soulevé de nombreux obstacles qu'il y a au niveau national au Soudan pour que de tels cas soient entendus devant les cours nationales. Alors déjà, des obstacles législatifs, le contexte légal, les crimes graves pour lesquels il est accusé n'ont seulement été mis dans la législation nationale plusieurs années après que ces crimes ont été commis. Il y a aussi une question de tout ce qui est la responsabilité de commande qui est actuellement pas criminalisée dans la législation au Soudan. Il y a aussi une question d'immunité des individus dans des positions officielles. Il y a vraiment à plusieurs niveaux des obstacles au niveau du Soudan qui nous ont, en tant qu'organisation, qui nous ont fait continuer à pousser à ce que ces remises soient faites.
Omar el-Béchir est poursuivi par la CPI, notamment pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Vu la gravité des charges, est-ce qu'il est déjà condamné selon vous? Peut-il avoir droit à un procès équitable?
Alors bien sûr, il sera essentiel pour la CPI pour s'assurer qu'il y ait un procès équitable. Je pense que la question absolument clé ici, c'est que est-ce que les maintes victimes verront une justice? On est vraiment une justice crédible pour toutes les victimes de ces crimes au Darfour.
Quelles peuvent être les conséquences de la remise de Omar al-Béchir à la CPI au Soudan, dans la région et en Afrique de manière générale?
C'est important de montrer que les individus, même les plus haut placés, ne sont pas immunisés d'une justice, que ce soit domestique, nationale ou internationale. Donc c'est bien sûr un moment important, c'est un message important pour les dirigeants à travers la région et pour les victimes, la société civile soudanaise qui se sont battues si longtemps pour voir ce jour arriver.
Laetitia Bader, directrice en charge de la Corne de l'Afrique à l'ONG Human Rights Watch.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, nous posons le débat sur l'Afrique et ses matières premières. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent à eux seuls 60% du cacao mondial, viennent de signer un nouvel accord pour, entre autres, mieux contrôler le prix et faire face au diktat des firmes internationales. L'Afrique, grande pourvoyeuse de matières premières, est souvent victime des aléas des marchés mondiaux. Comment tirer un meilleur profit des ressources naturelles? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a fait une visite éclair hier à Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord assiégée par les talibans, pour tenter de coordonner la riposte face aux insurgés qui contrôlent désormais plus d'un quart des capitales provinciales du pays. Pour sa part, l'administration Biden reconnaît que la situation se détériore rapidement en Afghanistan et Washington dit travailler sans relâche pour stopper les talibans, comme le rapporte Cindy Shane de la VOA dans ce reportage repris ici par Jacques Aristide, avec les derniers développements sur le terrain.
Les talibans convergent vers Mazar-i-Sharif. Des observateurs sont d'avis que la perte de cette ville serait catastrophique pour le gouvernement afghan qui n'aurait plus aucun contrôle sur toute la moitié nord du pays. Cela permettrait également aux insurgés de reporter leurs efforts sur d'autres régions et peut-être même sur la capitale Kaboul, là où se trouve la reporter Aisha Tanzim de la Voix de l'Amérique.
Je suis à Sharino, censé être un quartier chic de Kaboul. Cependant, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont dépourvus de tout. Ils n'ont rien. Ce sont les déplacés de Kunduz. Derrière moi, un camp de fortune accueille des dizaines de milliers de personnes qui ont dû fuir Kunduz, théâtre d'attaque des talibans.
Les violences touchent tout le monde, dont les enfants. Les talibans mènent leur offensive depuis mai dernier, au début du retrait final des troupes américaines et étrangères. Mais leur avancée s'est accélérée ces derniers jours avec la prise de nouveaux territoires. John Kirby est le porte-parole du Pentagone.
Le secrétaire à la défense partage l'inquiétude de la communauté internationale concernant la situation sécuritaire en Afghanistan, qui ne va manifestement pas dans la bonne direction. Et le secrétaire continue de croire que les forces afghanes ont la capacité de faire une grande différence sur le champ de bataille.
Le président Joe Biden est-il déçu que les forces afghanes n'aient pas été en mesure de repousser les talibans de manière plus efficace? Réponse de Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.
Je ne pense pas que nous ayons le luxe d'être simplement déçus. Notre point de vue, celui du président, est que le moment est venu pour ces forces d'utiliser la formation, l'assistance, les conseils de sécurité qui leur ont été fournis au cours des deux dernières décennies.
Michael O'Hanlon est de la Brookings Institution.
Eh bien, les États-Unis ont maintenant une décision importante à prendre quant à la force avec laquelle ils vont frapper pour essayer d'empêcher la prise de contrôle du pays par les talibans. Et je pense que la puissance aérienne des États-Unis est l'élément numéro un. C'est la chose qui reste à être décidée et cela pourrait avoir un impact important.
Au département d'État américain, on admet également que la situation se détériore rapidement en Afghanistan. Le porte-parole Ned Price affirme néanmoins que l'émissaire américain Zalma Khalilzad et son équipe sont de retour à Doha au Qatar pour des pourparlers avec les talibans. Ils travaillent d'arrache-pied pour une sortie de crise, d'après Ned Price.
Il exhortera les talibans à arrêter leur offensive militaire et à négocier un règlement politique.
Scott Warden est de l'Institut américain de la paix.
Je ne m'attendrais pas à une grande percée à ce stade, mais je pense que c'est une opportunité d'exercer une pression accrue sur les talibans, mais aussi de tempérer les attentes.
Le départ des forces internationales du territoire afghan doit être achevé d'ici le 31 août, 20 ans après leur intervention dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.